Et je donne tout de suite la parole à Elsa Dorlin, qui est professeure à l'Université de Paris 8 et qui va parler pour 25 minutes.
Bonjour, donc merci infiniment pour cette invitation et je suis très heureuse d'être présente et de rencontrer Gaëlle Rubin aujourd'hui. En fait, je vais intervenir sur un des premiers textes de Gaëlle Rubin sur The Traffic in Women, le texte de 1975. Et ce qui va m'intéresser dans ce texte, c'est de proposer à la fois une lecture, je dirais, interne, un commentaire interne, mais aussi réfléchir sur sa postérité dans le cadre de la pensée féministe en général, mais surtout du féminisme matérialiste en particulier. Et donc, je vais attacher une importance toute particulière au fait que ce texte a été traduit en français en 2001 par Nicole Claude Mathieu, avec une relecture justement de Gaëlle Peterson dans le cadre des cahiers du CEDREF. Et dans ce cadre-là, je vais essayer de faire quelques traversées transatlantiques entre le féminisme matérialiste des deux, du côté français et états-unien. Donc revenir à ce classique, hein, maintes fois discuté, y compris évidemment par Gaëlle Rubin qui reviendra sur un certain nombre de ses formulations, n'en demeure pas moins, à mon sens, d'actualité, tant la force critique de ce qu'elle appelle elle-même une exégèse du marxisme, du structuralisme et de la psychanalyse demeure à la fois précieuse pour le féminisme et théoriquement extrêmement heuristique. Revenir à ce classique permet également d'éclairer certainement des tensions irrésolues qui traversent la pensée féministe matérialiste, ou plutôt ce que l'on devrait appeler désormais les pensées féministes matérialistes, tant circulent à l'intérieur de ce courant et de cette tradition des conflits et des polémiques. Et de ce point de vue, d'un point de vue donc situé dans le débat français et plus largement francophone sur cette question, en creux de cette courte intervention, je vais m'intéresser au dernier épisode d'une polémique qui oppose, souvent de façon caricaturale, ce que l'on pourrait appeler une analytique matérialiste de la domination, centrée sur la notion de travail, mais de laquelle la sexualité a soit totalement été évacuée, soit est exclusivement définie comme l'expression paroxystique, de la domination. Pour le dire simplement, je m'interroge sur la tendance à constituer la sexualité comme un tabou au sein même de la tradition matérialiste, de la théorie féministe, ou alors comme le grand méchant loup de la domination, qui ne laisserait aucun choix à des victimes complètement objectivées et réduites à un silence mutique. C'est pour cela que, à mon sens, ce que je vais appeler la praxis féministe de la Rubin de Traffic appartient pleinement à sa proposition, à une proposition de pensée extrêmement utile aujourd'hui pour une politique sexuelle insurrectionnelle. Alors, il n'est pas anodin de rappeler que c'est une figure donc, de la pensée féministe matérialiste, l'anthropologue Nicole Claude Mathieu et Gaëlle Peterson, je vais y revenir, qui ont traduit ce texte et que les textes suivants de Rubin n'ont non seulement pas été traduits dans et par les mêmes personnes et réseaux intellectuels et éditoriaux, mais ont attendu également plusieurs années pour être de nouveau accessibles. Qu'est-ce dans ce texte, puis dans les textes suivants, deviendra donc infréquentable pour une partie de la pensée féministe française, dite matérialiste? Ou pour le dire autrement, qu'est-ce qui, dans ce texte, permet de dessiner une autre généalogie de la pensée matérialiste, précisément centrée sur la sexualité? La sexualité comprise non pas comme le signifiant de l'aliénation, mais comme étant constitutive de nos conditions matérielles d'existence. Et à ce titre, ce à partir de quoi il sera possible non seulement d'interpréter le monde, mais aussi de le transformer. Le point de départ est ainsi, dès ce texte de 1975, de définir la sexualité comme relevant des besoins naturels, au même titre que tous les autres, se nourrir, dormir, ce qui implique dans une perspective purement marxiste de Gaëlle Rubin, d'historiciser les modalités socioculturelles de satisfaction de ce besoin, telles que mises en place par et dans un mode de production. Le mode de production, au sens marxiste du terme, étant justement l'ensemble des relations qui organisent la satisfaction des besoins dans une communauté à une époque donnée. Donc, autrement dit, le tour de force de Gaëlle Rubin est de prendre la sexualité, ou en tout cas le système sexuel, ou en tout cas le système qui s'articule à la sexualité, comme au cœur de l'analyse marxiste, et donc comme constitutive d'une perspective matérialiste au sein du féminisme, de la théorie féministe. En ce sens, Gail Rubin va préciser que les satisfactions de ces besoins sont historiquement multiples et qu'en soi, il n'est absolument pas problématique de définir un besoin comme biologique ou naturel, puisque ce n'est absolument pas la question. La question est précisément l'historicisation de la satisfaction des besoins. Et d'autre part, ce qu'elle va permettre de penser, c'est que tout l'aura morale, toute la dimension morale qui entoure la sexualité n'est qu'une autre manière de discipliner, de socialiser la satisfaction des besoins naturels. Alors, je vais faire quelques constats préliminaires et ensuite je vais prendre trois petits points, grands points, mais à mon sens importants, que je veux retenir du texte. Donc, premier constat, dans le texte « Trafficking Woman », Gail Rubin dit opérer le même geste que Marx dans l'élaboration de son économie politique avec Ricardo et Smith, considérant justement que Freud et Lévi-Strauss ont réalisé des diagnostics heuristiques de la formation des systèmes sexe-genre, mais qu'ils ont évidemment failli quant aux implications théoriques et politiques de leur analyse. Autrement dit, si Ricardo et Smith ont bien analysé la question de la division du travail et la question de la quantité de travail nécessaire à la production de marchandises, ils n'en ont pas tiré l'ensemble des éléments probants, et c'est ce que Marx propose de faire dans un geste critique. Comme l'écrit Rubin sur la psychanalyse et la pensée freudienne en particulier, il s'agit bien ici, dans la psychanalyse de Freud, d'un féminisme manqué, donc d'un féminisme mais manqué. Ou encore, comme elle l'écrit, la psychanalyse et l'anthropologie structurale sont toutes deux, en un sens, les idéologies du sexisme les plus sophistiquées qu'on puisse trouver. Autrement dit, relire le structuralisme et relire la psychanalyse nous offre, pour le féministe et pour la pensée féministe, une sorte de vade-mecum de l'assujettissement des sexualités, des corps sexuels, de leur interpellation en sujets sexués genrés. Et de ce point de vue, nous ne pouvons en faire l'économie. Donc en faisant le choix de repartir des acquis du structuralisme comme de la psychanalyse, Rubin propose une critique radicale, non pas du structuralisme et de la psychanalyse, puisqu'il faut les incorporer, mais de leurs incohérences et lâcheté théorique. Dernière précision, il me semble qu'il y a ici une boucle critique, puisque c'est précisément avec Lévi-Strauss et Freud que Rubin vient également critiquer dans une certaine mesure Marx, ou le poursuivre, voire le dépasser, pour reprendre une expression que j'ai utilisée, mais qui a déjà été largement utilisée avant moi, pour queeriser le marxisme ou le matérialisme. Ainsi, le modèle du don et la pensée de Mauss, comme celui de l'échange et des structures de la parenté de Lévi-Strauss, permet à Rubin d'affiner la conceptualisation de la mécanique de la domination hétérosexiste, appelée communément patriarcat, terme qu'elle va discuter justement dans son texte en le refusant. Et dans cette perspective, je vais prendre donc trois éléments qui me semblent intéressants. Alors là encore, je fais l'hypothèse peut-être d'une autre généalogie, hein, du féminisme matérialiste, ou en tout cas d'une autre possibilité de cheminement critique dans une perspective matérialiste. Alors, premier élément, c'est sur la praxis féministe. Il me semble que le texte de 1975 est évidemment donc une exégèse critique, une analyse, mais que c'est véritablement un texte qui incarne une praxis féministe. Et peut-être, je vais même l'interpréter avec une ironie, enfin un geste ironique de départ de Gail Rubin, puisque dès la seconde page, finalement, Rubin ironise sur le fait que si on... Elle pose l'hypothèse de quelle est la cause de la domination et quelle est, comment analyser au fond la cause de l'oppression des femmes. Et ce qu'elle exprime, c'est que dans le cadre de la pensée féministe, si on analyse la cause de l'oppression des femmes dans l'agression et la dominance masculine, alors, en dernière instance, de façon, donc c'est une détermination en dernière instance, eh bien, pour le féminisme, son programme politique ne peut être logiquement que d'exiger l'extermination du sexe incriminé. Soit encore, un plan d'eugénisme généralisé. Donc ici, il y a vraiment une cohérence en termes de praxis féministe. C'est-à-dire à partir du moment où on propose une analytique de la domination, ça a nécessairement des conséquences contraignantes quant à une politique féministe digne de ce nom. Autre hypothèse, si le sexisme est un sous-produit de l'implacable appât du gain du capitalisme, alors le sexisme disparaîtrait avec l'avènement d'une révolution socialiste réussie. Donc ça, on sait que c'est pas possible. Dernière hypothèse proposée, si la grande défaite historique du sexe féminin s'est produite par intervention d'une révolte armée patriarcale, donc ça c'est une thèse d'analyse sur la martialité, hein, sur la guerre précisément, mais là la guerre des sexes au sens, je dirais, classique du terme, eh bien une praxis féministe digne de ce nom serait la guérilla d'Amazon, et d'ailleurs il serait temps d'aller s'entraîner avec des magnums dans les Adirondacks, c'est-à-dire des montagnes à côté de New York, c'est ça ? Enfin voilà. Donc il est temps de faire de rentrer en guérilla. Donc en fait, elle ouvre le texte de 75 sur l'idée que, encore une fois, on est dans le cadre d'une. Il n'y a pas de pensée sans pratique, ou il n'y a pas de théorie sans pratique, ou plus exactement, la théorie est nécessairement grosse de pratique, de la même façon que la pratique implique, ou en tout cas est traversée de pratique. C'est ça ce qui, à mon avis, est la définition première du féminisme, et non pas, la définition du féminisme ne relève pas de son sujet, mais plutôt de cette idée de praxis. Et de ce point de vue-là, ce que va proposer Gayle Rubin, c'est précisément cette praxis féministe et au cœur de laquelle elle va situer la sexualité. Et dans sa conclusion, donc dans les dernières pages du texte, après toute une analyse sur Marx, Lévi-Strauss et Freud, de façon conséquente, Rubin considère effectivement que mon sentiment personnel, écrit-elle dans la traduction française, et que le mouvement féministe doit rêver à bien plus encore qu'à l'élimination de l'oppression des femmes, il doit rêver à l'élimination des sexualités obligatoires et des rôles de sexe. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'elle pose cette idée de praxis féministe qui deviendra plus tard une politique sexuelle qu'on peut qualifier d'insurrectionnelle. Donc deuxième élément, je vais m'intéresser ici au concept d'échange et comment, à travers le concept d'échange, en fait, elle fait varier ou en tout cas elle enrichit l'analyse marxiste de son, enfin, le principe marxien de son propos. Et pourquoi, en fait, ça lui permet de récuser le terme de patriarcat comme étant un terme obsolète. Donc, Rubin considère que le patriarcat, et c'est le contre-pied quand même d'un certain nombre de théoriciennes matérialistes, à commencer par exemple en France par Christine Delphi, qui reprend, elle, au contraire, ce terme. Mais le terme patriarcat renvoie, selon Rubin, à une organisation sociétale historiquement située qui est celle incarnée par Abraham. Comme on le sait trop bien, sur cette question du patriarcat, le débat reste ouvert. Et Rubin, elle, se réfère, mais là encore de façon tout à fait classique dans cette tradition, à un extrait de Engels sur l'origine de la famille, où Engels explique que la question de l'oppression spécifique des femmes réside dans la notion de reproduction, celle-ci étant entendue dans les deux sens, de reproduction de la force de travail et reproduction des humains en tant que tels. Elle reprend cette idée, mais en fait, par rapport à cette question de la division au fond du travail entre production et reproduction, qui implique cette, ou en tout cas qui est complètement corrélative à la notion de division sexuelle du travail, Rubin en fait, va la faire varier avec la notion d'échange. Et ce qu'elle dit au fond, c'est que la division sexuelle du travail, ce n'est pas seulement évidemment que dans le capitalisme, c'est en amont et au-delà, et elle peut être reconceptualisée à partir de l'échange même. Et de ce point de vue, l'échange des femmes, tel que défini par Lévi-Strauss, est structurel et peut être utilisé par le féminisme. Mais ce qu'elle reproche à Lévi-Strauss, c'est précisément d'avoir maintenu en fait cette expression d'échange des femmes et de ne pas avoir fait suffisamment, de ne pas avoir conceptualisé véritablement cette notion d'échange et d'avoir postulé au fond que le sujet, enfin, que le terme femme préexistait à l'échange. Et ce que va conceptualiser Rubin, c'est de dire que le terme finalement, les femmes ne sont que le produit ou en tout cas l'effet de cet échange et ne préexistent pas à la relation. Donc les femmes en tant que telles ne préexistent pas, ou en tout cas il n'y a pas à absolutiser cette expression. On a plutôt des corps sexuels qui sont échangés et échangeurs, disciplinés ou jouisseurs, disciplinés et jouisseurs, et qui circulent dans une multiplicité de modalités de l'échange. De ce point de vue, on peut considérer que résister, c'est justement modifier les termes de l'échange, les brouiller, les refuser, les redéfinir, les voler, troquer, etc. Et ici, on voit bien les perspectives en fait, de résistance, même si la contrainte, on le sait, notamment dans une société capitaliste néolibérale comme la nôtre, est forte, puisque l'idée selon laquelle nous n'avons d'autre choix que d'être échangés est toujours, est plus que jamais pertinente. Mais cette idée de « nous n'avons d'autre choix que d'être échangés » n'éradique pas en fait, les possibilités de résistance sur la notion de « on devient femme passif ou aliéné » précisément lorsqu'on est, on rentre dans l'échange en y étant objectivé. Donc le privilège de qui échange en fait, est le nœud en fait, de la problématique. On retrouve des choses assez similaires chez Paola Tabet sur la question, justement, quand Paola Tabet s'intéresse au continuum de l'échange économico-sexuel et qu'elle réfléchit à un échange, justement, qui serait égalitaire ou lié à l'émancipation, elle dit bien que ce qui est le nerf de la guerre, c'est que les positions changent dans l'échange et qu'elles ne soient pas fixées ou entérinées dans et par l'échange. Donc l'objectivation, finalement, par exemple, c'est un exemple en homme ou femme, est le produit de l'échange, et puisque l'échange produit de la catégorisation. Alors, autre exemple, c'est sur cette question, c'est sur la psychanalyse. Et là, j'avais déjà évoqué, j'irai assez vite, mais j'avais déjà évoqué dans un autre texte comment le chapitre très précis du texte de Rubin sur le complexe d'Oedipe était vraiment... une sorte de vade-mecum de l'émancipation sexuelle, un manuel d'émancipation sexuelle féministe. Il faut absolument lire ce chapitre, en tout cas, ou le lire très rapidement, puisqu'elle montre exactement dans ce chapitre comment, dans une perspective féministe, la discussion sur la généalogie du complexe d'Oedipe montre comment il y a non seulement des incohérences dans cette conceptualisation et dans l'application du complexe d'Oedipe à la petite fille, mais aussi comment, au fond, et là je dirais qu'il y a une certaine proximité avec Haraway, nous sommes dans la réification de nos analyses de la domination, nous sommes dans des formes de mythologie obsolète. Le complexe d'Oedipe est une structuration, une conceptualisation de la fabrication des psychismes genrés complètement obsolètes, qui est en plus complètement liée à des conditions matérielles d'existence qui n'existent plus. Elle montre bien justement qu'en faisant varier la division sexuelle du travail, notamment de care auprès des petits-enfants, le fait qu'il y ait une circulation des rôles, un brouillage des rôles de care, font que d'emblée, le complexe d'Oedipe ne peut plus tenir. Elle montre, par exemple, comment on n'explique jamais pourquoi, à un moment donné, la petite fille prend conscience qu'elle ne pourra jamais satisfaire sa mère puisqu'elle est un être castré, ce qui suppose, en fait, ce que Freud postule, ce qui suppose que, pour elle, il y ait une forme de figuration que sa mère ne peut être satisfaite que dans la pénétration et, finalement, la domination phallique. Or, Gail Rubin prend l'exemple d'une mère lesbienne et elle dit tout simplement que si on prend une figure de la mère lesbienne, la figure politique de la mère lesbienne, du coup, le système, en tout cas, la ligne explicative est complètement détruite. Donc, au fond, ce qui est intéressant dans cette... Et là, je vais très vite, évidemment, mais encore une fois, c'est juste un exemple de ce qui me semble à retenir. Les conditions matérielles d'existence et les conditions matérielles d'existence à la fois affectives et sexuelles ont des implications sur la construction des individus comme sujets sexuels. Et de ce point de vue-là, il y a aussi, on voit comment c'est le creuset d'une possibilité d'émancipation dans et par la sexualité. Comment la sexualité décentrée d'une... de l'hétérosexualité obligatoire a des implications en termes de travail, de division du travail, en termes économiques, mais en termes également de psychisme, d'imaginaire, et d'imaginaire y compris pour la révolution sexuelle. Donc, de ce point de vue-là, il y aurait d'autres choses à dire, parce qu'il me semble que la seule chose peut-être qui aurait pu être évoquée également dans ce chapitre sur l'Oedipe et sur Freud, c'est peut-être une évocation de l'abandon de Freud de la thèse de la séduction et de la neurotica, C'est-à-dire, ce qui manque aussi, c'est l'articulation de la déréalisation de la violence sexuelle. C'est-à-dire, la question de la sexualité, c'est à la fois ce par quoi je suis... en tant que condition matérielle, c'est à la fois ce par quoi je suis assujettie, c'est aussi ce à partir de quoi je peux m'émanciper ou me libérer au choix. Donc, voilà, cette lecture classique d'une féministe matérialiste queer. Merci.
This is just an informational question. First of all, thank you very much for that, the degree to which I could follow. I'm just curious about if there are parallel debates in France, what were people arguing about at the time here? What did materialist feminism mean here? Who were the combatants and what were the positions? Because I know they're different than they were in the U.S.
En tout cas, il y a eu ces derniers temps un certain conflit entre une grande figure du féminisme matérialiste qui est Christine Delphi et qui à plusieurs reprises a fait des interventions publiques pour critiquer très fortement ce qu'elle a rassemblé de façon sous l'expression théorie queer. Et le débat joue sur la question de la dématérialisation, en tout cas du rapport de domination. Mais sous ce débat, il y a aussi... puisque, en fait, par exemple, dans un texte, dans le dictionnaire critique du féminisme, Nicole Claude-Mathieu, qui avait fait également l'article « Sexe-genre », avait également, dès cet article, eu des positions très critiques sur ce qui était appelé en France « théorie queer ». Et ce qui est intéressant de constater, et je pense qu'il y a plusieurs intellectuels universitaires féministes qui aujourd'hui travaillent sur cette question, c'est l'éviction de la sexualité d'une certaine conceptualisation matérialiste de la domination qui implique par exemple le fait que une grande figure comme Monique Wittig circule aujourd'hui quasiment que justement du côté de ce qu'on pourrait appeler les tenants de la déconstruction ou du queer, ou je ne sais pas comment appeler, et un peu évacué en fait d'un corpus autorisé dit du féminisme matérialiste.
Thank you. En fait, tu as évoqué une position de Gail Rubin par rapport à la psychanalyse au moment même où ces articles étaient rédigés, donc dans les années 80. Comment est-ce qu'on peut interpréter justement aujourd'hui le fait que ce soit des psychanalystes qui publient ce que des maisons d'édition autres n'ont pas publié ? Et tu disais aussi à juste titre qu'il n'y a pas le féminisme mais des praxis du féminisme. Est-ce qu'on ne peut pas accorder la même chose aux psychanalystes, à savoir que c'est aussi une praxis ? Donc, peut-être...
Sur la psychanalyse, j'ai pas...
Tu dis la psychanalyse, donc peut-être que ça serait intéressant de voir aussi dans quelle mesure des praxis psychanalytique pourrait rejoindre des praxis féministes et peut-être être un peu moins manqué que ce que Gail Rubin disait à juste titre dans son ouvrage, à savoir que la psychanalyse était un féminisme manqué, que peut-être que maintenant il y a des choses au niveau des praxis qui peuvent se rejoindre et démanquer ce féminisme.
Le texte est très situé à 75 et le texte est très situé sur le corpus, exactement les textes cités sont ceux de Freud sur la féminité.
Non, mais je te parle aujourd'hui, justement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cet ouvrage en 2013 ?
Y a des psychanalyses, effectivement. Après, on a vu qu'une certaine psychanalyse, un certain discours psychanalytique dominant n'était pas très reluisant sur le débat contemporain.
Mais donc, oui, il y a des praxis. Paradoxalement, souligne le paradoxe. Alors, dans ce cas-là, que ce soit des psychanalystes qui publient Gail Rubin, c'est quand même intéressant.
C'est une certaine école de psychanalyse qui est traditionnellement...
Oui. C'est bien ce qu'on dit, voilà. Non, mais je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant de soulever. Tu vois, parce que puisque précisément une critique valait à une époque, qu'en est-il aujourd'hui ?
Je sais pas, je pense qu'on ne peut pas répondre aussi généralement.
Donc on ne peut pas dire la psychanalyse ?
Non, on ne peut pas dire la table, parce qu'il y a plusieurs tables. Il y a 7 tables, etc. Mais après, il y a un concept de table.
Donc on est d'accord.
Table,
voilà. Très bien, on est d'accord. Non, il n'y a pas de concept de la psychanalyse. Ou alors, donne-le, quel est le tien alors ?
Il y a un concept, par contre, de l'agression, peut-être, ou je ne sais pas.
Oh ! Elsa, voyons.
C'est en fait, c'est une question...
Sois gentil, Rostam, s'il te plaît.
Ah oui, non, c'est... Oh là
là. Moi, je suis gentil, moi, je suis vanille, moi.
Ah, je suis déçu. En fait, non, j'ai une question qui va un peu dans la lignée de ta réponse, enfin de la question de Gaëlle et de ta réponse, et c'est une question un peu d'histoire du féminisme français, et c'est une véritable question. Je me demande si tu disais en fait qu'il y a eu une exclusion, je ne sais plus quel terme tu as employé, mais en gros une exclusion de la sexualité des paradigmes féministes français. Et en fait, je me demandais à quel moment est-ce que ça s'est fait. Et pour être plus clair, en fait, je ne sais pas si, et je voudrais avoir ta lecture là-dessus, en fait, si tu vois, à l'époque où Gaëlle écrit « Le marché aux femmes », donc disons dans la première moitié des années 70, est-ce que la sexualité est exclue des paradigmes féministes français alors qu'elle serait intégrée dans les paradigmes féministes américains? Ou est-ce que c'est plutôt qu'en fait, elle relève d'un... C'est pas la question à l'ordre du jour en France, plutôt qu'une exclusion active, disons. Et en fait... Parce qu'il me semble qu'en France, les débats sur la sexualité dans le féminisme sont essentiellement posés à cette époque-là, ont essentiellement rapport en fait avec les questions d'avortement et de contraception, etc. Mais la question centrale du féminisme à l'époque en France, c'est en fait la question du travail domestique, il me semble. Et ma lecture, excuse-moi, je suis un peu long, mais c'est l'hypothèse que j'ai, c'est qu'en fait à l'époque, la sexualité n'est pas la question centrale des féministes françaises. Et en fait, c'est à partir de la rupture entre Wittig et Delphi à la fin des années 70 que la question va se poser, puisque Wittig pose la question de l'organisation d'un mouvement lesbien, etc., et que Delphi reste très réticente à l'égard de ça, et c'est là-dessus que se fait leur rupture. Et je me demande si, en fait, c'est pas, au fond, dans la lignée des sex wars, beaucoup plus tard, en fait, qu'un certain féminisme français va effectivement adopter une attitude d'exclusion de la réflexion sur la sexualité, ou alors va avoir une réflexion sur la sexualité qui va être essentiellement dans des termes simplistes qui viennent assez directement, je crois, des États-Unis, et dont Delphi aujourd'hui, avec toute l'admiration que j'ai pour elle pour une première partie de son travail, en fait, dont Delphi est aujourd'hui l'incarnation quand elle publie, visiblement, je ne les ai pas lus, mais voilà, des préfaces à MacKinnon ou à Stoltenberg, des choses comme ça. Mais autrement dit, en fait, excuse-moi, je suis encore un peu long, mais ce que je me demande, et ce sur quoi j'aimerais t'entendre, en fait, c'est de savoir s'il y a véritablement une exclusion sur toute la longueur, ou s'il y a d'abord un désintérêt, parce que ce n'est pas la question, et puis finalement, à travers des échanges transatlantiques, en fait, véritablement ensuite, mais beaucoup plus tard, un discours d'exclusion de la sexualité.
Mais en fait, ça nécessite énormément de, enfin, non seulement de réflexion, de travaux. Je pense qu'il y a, il y a plusieurs éléments de réponse, et je ne les ai pas tous. Je sais qu'on en parlait tout à l'heure, Isabelle Claire travaille sur une sociologie, justement, de la pensée féministe qui a pour problématique la façon dont la sexualité a circulé dans la pensée féministe française, notamment. Donc là, il y a des choses vraiment intéressantes en termes d'histoire intellectuelle. Il y a des choses, il y a des éléments de réponse, il me semble, en termes d'histoire du mouvement lui-même. Et là, on a vraiment quelques éléments, enfin des travaux évidemment sur la mobilisation sur la contraception et l'avortement. Mais je crois que ce qui m'intéresse, c'est à un moment donné comment la sexualité ne disparaît pas. Elle ne va pas disparaître, en fait, mais elle ne peut plus être que le signifiant de la domination. Donc c'est de façon relativement proche, effectivement, de ce qui est en train de se jouer aussi aux États-Unis. Et là, peut-être que Eric a beaucoup plus d'éléments pour moi sur la comparaison France-États-Unis sur cette question. Mais ce qui m'intéresse de penser, de conceptualiser, c'est la notion de praxis, dans une perspective héritière du marxisme. Et de ce point de vue-là, si on fait l'économie en fait, de la sexualité comme pratique, comme travail, ou comme tout travail, en fait, je me constitue aussi dans et par ce travail, eh ben, je crois qu'on perd complètement toute voie d'émancipation, de libération. C'est-à-dire, c'est sur cette ligne-là que j'avais envie de retravailler avec le premier texte de Rubin, justement, que l'on considère même un peu communément comme avant la question vraiment de l'économie sexuelle. Alors que moi, je pense que dès, évidemment, le marché, il y a déjà tout, enfin, une théorisation marxiste de l'émancipation sexuelle.
Oui, moi j'ai une question sur les termes que vous avez employés, et notamment sur le remplacement, il me semble, du terme radical par insurrectionnel, d'une certaine façon. Je voulais savoir si c'était lié, puisque dans le texte original de Gail Rubin, on parle de théorie radicale de la sexualité, si c'était lié à une évolution, disons, historique du terme, et notamment des féministes radicales dans le contexte actuel, voilà.
Oui, j'ai un peu fait effectivement exprès parce qu'il me semblait que le terme radical, y compris dans sa traduction, est complètement miné, surcondensé de signification. Et j'ai pris insurrectionnel dans une perspective presque insurrectionnelle. Où le radical, en fait, c'est pour essayer de restaurer la portée révolutionnaire de la sexualité, en fait. Mais qui soit un petit peu... Qui se détache également des théories de la libération sexuelle, par exemple, ou des traditions de la libération sexuelle. Et j'aimais bien cette idée d'économie sexuelle insurrectionnelle, voilà, qui permet d'englober différentes modalités de résistance ou de contestation ou de pas de côté, y compris toutes les réflexions justement sur le travail sexuel. Voilà.
Alors, moi, j'ai une question qui porte sur le fait de considérer donc l'ancrage marxiste du texte. Donc, c'est un ancrage qui est marxiste, mais qui est surtout une certaine lecture de Marx. Enfin, ce qu'on pourrait qualifier d'une espèce de Marx de jeunesse qui est très axé sur la division du travail entre les classes, etc. Et il se trouve que plus récemment, donc en particulier à partir des années 90, il y a eu pas mal de réélaborations, si j'ose dire, à partir de Marx, contre ce marxisme qui prend plus au sérieux la question du travail en tant que tel que de la division du travail au sein du capitalisme, en essayant de voir à quel point il y a des formes historiquement spécifiques du travail au sein du capitalisme. Est-ce que ce ne serait pas intéressant, si jamais on devait réélaborer une rencontre entre le féminisme ou les féminismes et Marx aujourd'hui, ce ne serait pas intéressant de partir plutôt de ce point de vue-là, et de peut-être d'essayer de concevoir, non pas une division sexuelle ou une division de la sexualité entre les genres, mais plutôt d'essayer de voir aussi les formes spécifiques de sexualité qui émergent. Et comme une espèce de... Enfin, donc, ce qui est réélaboré comme travail, c'est autour des écoles de la critique de la valeur comme synthèse sociale. Est-ce que la sexualité ou est-ce que la disponibilité affective qui est dans les régimes politiques dans lesquels on vit, le fait des femmes essentiellement, ou de ce qui est assigné à la féminité, on ne devrait pas aussi voir la sexualité, la relation, l'amour, d'une certaine façon, comme des formes sociales spécifiques qui sont... une espèce de synthèse sociale totale, à l'instar de ce qu'est le travail pour Marx dans son œuvre de maturité, plutôt.
Je trouve que c'est tout à fait passionnant. Après, je pense qu'il y a plusieurs lectures. Enfin, là, on est vraiment dans une... Ce qui est intéressant, ce qui me semblait intéressant, c'est vraiment de se situer au cœur d'une tradition marxienne, marxiste. Il me semble que dans le texte de 75, en fait, il y a une source un petit peu, ou en tout cas, il y a un esprit qui est proche des thèses sur Feuerbach, donc qui est effectivement, mais qui ensuite se cite à peu près, enfin, est toujours sur le capital et sur une analyse de l'économie politique, mais peut-être que la source directe, c'est plutôt Engels, je dirais, et sur la question de la reproduction. Et sur cette notion de reproduction, et la première discussion du texte est plutôt sur la plus-value, c'est-à-dire si on est dans le travail de, enfin, si l'exploitation spécifique qui produit une classe qui s'appelle les femmes est sur la question de la reproduction, quel rapport avec la plus-value? Et l'hypothèse de Rubin, c'est de dire c'est un rapport en fait second, c'est-à-dire que ça produit mais de façon médiane de la plus-value, parce que en gros la reproduction de la force de travail, il faut bien quelqu'un qui dépense du travail pour faire la lessive, mettre la table, faire à manger, etc., etc. Être disponible sexuellement et être disponible affectivement, etc. Donc il me semble même que toute la dimension affective du capitalisme, le capitalisme émotionnel, il est aujourd'hui, tous les travaux sur cette question sont ultra enrichissants pour la pensée féministe. Mais de mon point de vue, ce qui m'intéresse davantage, peut-être, dans l'actualité du marxisme, c'est plus des travaux comme David Harvey sur le monopole et la rente. Et je trouve que de ce côté-là, justement, donc c'est pas du tout sur la division sexuelle du travail, mais il me semble que les travaux sur la question du monopole des logiques de monopole sont très intéressantes pour comprendre en fait les logiques de pouvoir et les rapports de domination dans le capitalisme contemporain. Voilà, mais ça c'est mon point de vue.
Merci beaucoup Elsa et à tout le monde pour la discussion. Maintenant, on va passer la parole à Éric Fassin, sociologue, professeur à Paris 8, chercheur à l'IRIS, et pour 25 minutes.
Je vous réitère mes excuses pour le fait que je vais parler en anglais, non pas par une coquetterie mal placée, mais puisqu'il va s'agir d'une conversation avec un texte de Gail Rubin, comme elle a déjà eu toute l'après-midi à faire avec notre langue, pour lui garder une petite pause dans tout ça. J'essaierai de temps en temps peut-être de résumer en une phrase très profonde ce que j'aurais dit en 5 minutes. This morning, Gail Rubin insisted on the fact that what she had written in Thinking Sex was just notes towards. In fact, the title was a little bit less cautious. It was Notes 4. And the French version elides the caution by saying pour une théorie. And so the issue of how cautious we should be about what we're saying is always complicated. But in my case, I should be very cautious because I'm not exactly sure of what I'm saying. So I'm hoping that the English will protect me from criticism, that you will assume that what you do not understand comes from the language, not from the speaker. I want to elaborate on what we've been discussing, that is the title Pleasure and Danger. I hesitated, was I going to say pleasure and pleasure or pleasure and or? So this is what the talk is going to be about. We've seen that this division between pleasure and danger is not exactly one between pro-sex and anti-sex. It's not even exactly an opposition between anti-anti-sex and merely anti-sex, because it's not exactly two sides, because both sides of the sex wars talk about both pleasure and danger. However, they start from opposite ends, I think. Starting from pleasure or starting from danger creates a completely different narrative. And the question in both cases is then, how do you articulate both? How do you articulate pleasure and danger? Look, for example, at Andrea Dworkin's argument about collaboration. Sexual collaboration for her does not mean that there's no pleasure. On the contrary, there's pleasure in collaboration. So there's pleasure in domination. Or if you take the argument by Catherine MacKinnon, which I think is different from that of Andrea Dworkin's, and this was discussed, I think, in 1991 in an article in the New York Times about Catherine MacKinnon, when Richard Rorty had been commenting on Catherine MacKinnon and insisting that she was not anti-sex. She didn't say that good sex, so to speak, was impossible. She just said it's impossible given the conditions that we're in. That is, the question is not pleasure or danger, but how can we think about pleasure when there is such danger? Hence the question of which end you start from. So it was not anti-sex, Rorty argued, and MacKinnon concurred, but it was anti-sex as we know it in a world of domination. I think conversely, and we've seen that throughout the day, Gail Rubin, but also Carol Vance and others on that side of the battles of the sex wars do talk about power, of course, but differently, and this will be my focus. I will not focus on MacKinnon, et cetera, but I will focus on the arguments presented by Rubin, Vance, et cetera. To have an idea of how this developed in the 1980s, I think, or even before, I think this volume, Sex Wars, by Lisa Dugan and Nan Hunter, is quite useful, in particular because there's a chronology which I would recommend. But I will quote a few titles which I think can be interesting. There's Pleasure and Danger, the book, the 1984 book following the 1982 conference. But there's also the Samoa volume that was mentioned before that's called Coming to Power, That's 1981. And then there's another volume that's quite interesting in the same line of argument with the same general perspective, I think, which is called Powers of Desire, edited by Anne Snitow, Christine Stanzel, and Sharon Thompson. And there's yet another one later in 1989 by historians called Passion and Power. What I think is interesting is in each case you have this link between pleasure and danger, or between passion and power, or between jouissance and power. And the question in each case, then, is that of and. What is this and that connects the two? I was thinking that my role model was Bill Clinton. You may recall that during the Lewinsky scandal, he made this wonderful pronouncement, which was, it depends on what the meaning of the word is. So my argument is a bit similar, but it's about and. It depends on what the meaning of the word and is. If we look at the argument by Carol Vance, I think she has two different positions that are expressed. One is in the 1984 original volume, and one is in the new preface for the 1992 volume. So I'll start from the 1992 volume. She says, "The concept of pleasure and danger was intended to speak to this complexity. At the individual level, it explains the mix of fear and excitement that women often feel when they approach sexuality. At the group level, it speaks to the differences among women who, depending on personal history and experience, may want to stress safety or adventure at various times in their lives. Hence, the concept is intended to offer a generous framework for understanding differences," etc., etc. What I want to emphasize is that it's in the singular. She says, the concept, which means it's not two concepts, pleasure and danger. It's pleasure and danger, as if this were hyphenated. It's one concept. However, if you look at the original preface, it starts with the tension between sexual danger and sexual pleasure, same thing. However, it becomes the juxtaposition of pleasure and danger, which means two concepts. So the question is, are we talking about pleasure on the one hand and danger on the other, or about pleasure and danger as one concept? Two concepts or one? And this will be the question, the fascinating question that I will try to develop now. What Gail Rubin did this morning about the sex wars, I think, was in part recount the history, but also dispel misunderstandings. And point out how these misunderstandings were meaningful in that they served a polemical purpose, including, I particularly enjoyed the discussion of the middling strategies. Now, what I want to do is different. It's to see not what the sex wars prevented from understanding or seeing, but what they did, what they produced, which is a classic Foucault kind of strategy, that is, what it produces, not what it hides or represses or whatever. Now, the first thing that the sex wars did was, and we've seen that before, it's the pro-sex versus anti-sex dichotomy. So the question is not to know whether it's true, whether it reflects real positions, but to see that it produced that. It became part of the conversation. Henceforth, people started talking about pro-sex and anti-sex. That's the first thing. The second thing is something that I have studied in the past, and so I will now develop it, what I have called a Yalta of feminism. I kind of like that phrase, and so I've repeated it, which was about the idea that, in fact, pleasure tended to be a discussion about same-sex sexuality, whereas danger tended to be a conversation about different sex sexuality after these polemics. So there was a sort of division of labor, and in many ways what is striking is that someone like Catherine MacKinnon does not have that much to say about same-sex relationships, except I think the main argument has been in the Onkali Supreme Court decision and the brief to the court that she wrote and the argument that she inspired, that it's just like, because in fact it's about gender. So it's an analogy. It's the same thing, basically. But I think there's no serious attempt at thinking about what is going on in same-sex relations, because the debate is about violence, and since violence is about gender, it's so much more immediate to think that it's about the classical situation, man-woman. So I think there has, and conversely, I think there has been a considerable interest in the potential, for example, in discussions about lipstick lesbians, etc. I mean, all kinds of things where basically the idea was that fun sex could be on one side and dangerous sex was on the other, I think is partly a result of the wars. I'm not saying that it reflects prior positions, but that the polemic produced such a polarization. But there's the one element I want to focus is neither the first one that I mentioned, pro-sex, anti-sex, nor the second one, same sex, different sex, but a third one, which is on the one hand, on the other hand. That is the meaning of and that I think we find in the juxtaposition argument by Carol Vance. And I think it's not entirely absent from the starting point. After all, the picture that Gail showed us was that of a woman who's between two beds. Clearly, that means there must be two beds that are separate. And the whole point is that you might fall in between or have a hard time maintaining a position on both, or that you might prefer to be on one or the other. But the bottom line is that there are two beds. And we'll see that I think the question of two people on one bed or one person on two beds is one of the issues. with a phrase, strange bedfellows, which I think is central in the politics of all this. Now, if we look at the argument that Gail Rubin made in that famous and also, and I say this positively, infamous text, she concludes, and that I think has been central, and I will just quote again because it's so important, she concludes by a contrast between her earlier position in the traffic in women and her current position in a different context, and I think context is essential in thinking sex. I'll read, it's very familiar, but I just want to remind you, in contrast to my perspective in the traffic in women, I am now arguing that it is essential to separate gender and sexuality analytically to more accurately reflect their separate social existence. So the distinction, which is not an opposition, as we were reminded, is here the key. By contrast, Catherine MacKinnon has made the most explicit theoretical attempt to subsume sexuality under feminist thought. According to MacKinnon, sexuality is to feminism what work is to Marxism. That's a quote. The molding, direction, expression of sexuality organizes society into two sexes, women and men. This analytic, and now this is Gail Rubin speaking, this analytic strategy in turn rests on a decision to, quote, use sex and gender relatively interchangeably. And she concludes, it is this definitional fusion that I want to challenge. Hence, the decision to say, in the long run, feminism's critique of gender hierarchy must be incorporated into a radical theory of sex, but an autonomous theory and politics specific to sexuality must be developed. So in the long run, we will be able to think about the two together, but in the meantime, we need to think analytically, separately about both. So that is the argument. Now, of course, as we were reminded this morning, this is in no way equivalent to the position of Janet Halley when she says taking a break from feminism. That is basically, if feminism reduces sexuality to gender, well, let's do without feminism if we want to think about sexuality. That is not the position, as we were reminded this morning, of Gail Rubin. But the question remains, and I think that's one question that I had at the end of the presentation this morning, about the plurality that was advocated. Is it that there are different kinds of feminism? That's one option. Or that on the one hand, there's feminism that talks about gender, and there's something else that talks about sexuality, which is outside of feminism. And these are two different versions. And then the question of how to articulate pleasure and danger takes on a very different meaning, because if danger has to do with gender, that is with gender domination, and if sexuality is something else, then the problem of, in the long term, putting them back together will be complicated. This, I think, has to do, and the question was broached in the discussion following Elsa Dorlin's presentation, about terms such as radical, but also terms such as liberal. As you know, these terms can be used as labels or insults, and on both sides. That is, on the side of MacKinnon and Dworkin, people have accused the other side of being liberals or libertarians, and that was not good. But if you read Alice Eccles, who was mentioned this morning, when she talks about cultural feminism to describe Andrea Dworkin, Kathy Barry, and others, what she's saying is that cultural feminism may be a variation on radical feminism, but actually might be a departure from radical feminism, and so that's not good. So the labels that are used, the question of who's radical and who's not, have very much occupied the ground. And my point is not to sort of give points to say who's a good liberal or a good radical or a bad liberal, et cetera. So this will not be my argument. My interest is not to use these terms polemically, but to question them while taking them seriously. I think there is a dimension of liberalism in Gail Rubin's argument, which does not mean that she's a liberal. But there's a liberal dimension. If you look at the title of tomorrow's discussion, Chérir la diversité sexuelle, cherishing sexual diversity, it has to do with the recognition of a plurality. And so this is in no way, I think, incompatible with a liberal perspective. And arguments about diversity, pluralism, etc. She quoted this morning what her response would be to the question, if it feels good, let's do it. She says, had I used such language, which of course means she doesn't, but at the same time, you know how it works in a sentence like this, that means you're still saying it. Had I used such language, I might have said, if it feels good, there had better be good reasons to prevent people from doing it or to punish them for doing it. That's not radically different from a liberal argument, saying if you want to prevent someone from doing something, you better have a good reason. And basically, the limit of my freedom is someone else's freedom. That is not incompatible with a liberal position. And actually, there's even one sentence which I thought was quite striking at the end of Thinking Sex, at the very end of Thinking Sex, in the conclusion, where Gail Rubin writes, "If sex is taken too seriously, sexual persecution is not taken seriously enough." The idea is that the anti-pornography movement is taking sex too seriously. Therefore, it suggests that maybe it's not such a big deal, which is not exactly a radical argument in some ways. I think what I think is at stake is the idea that in reaction against sex panic, we need some kind of deflation. And so I think these arguments are not to be understood as the ultimate positions of this or that person. What we've been talking about are sex wars, that is, polemics. And so the arguments have to be understood in reaction against others. So whatever we're saying in these debates are points that we want to try to make to address certain fears and anxieties, etc. So what I'm not suggesting is that that Gail Rubin or Carol Vance or whoever else is a closeted liberal. What I want to argue is that, in fact, these questions have to be understood strategically and not as eternal philosophical positions. There's not something that says that ultimately you are this or that. I think our politics are always contextual. They're always strategic. So I'm not unveiling a sort of hidden liberal agenda. That, I think, has no interest for me. What I'm trying to do is to show how there are rhetorics that depend on context, and that depend on strategies. And actually, this question has to do with context. And of course, the context which was mentioned this morning was that the fact that Lisa Dugan, for example, who is a radical, will write against censorship, which might make an alliance with some liberals. This, of course, has to do with the context, which is the moral majority, the Reagan years, et cetera, et cetera. So our positions cannot be dissociated from the contexts in which we develop them. That's why there are always strange bedfellows in politics, and not just our enemies. Actually, what we see, I think, whatever political position we take, is that we happen to be on the same side as people we would prefer not to share a bed with. So I think the laws of politics are premised, on the one hand, and I've developed that elsewhere, on the idea that any sword is a double-edged sword, but B, on the idea that bedfellows are often strange. I want to draw a brief comparison before returning to this U.S. context to say that this is not specific to the U.S., of course. I think many of the debates that we're having in France today resonate with everything we've been discussing. The debate about prostitution, which was mentioned before, and anyone who's subscribed to the email list Effigie knows that basically no comment is needed. So I will not expand on this, but there was something vaguely familiar, right? To take another example, which is not specifically which is not only about sexuality. If you look at the combination with race and with class, the debates about tournantes, so these gang rapes in the early 2000s, or the recurrent debates about the so-called Islamic veil, all these debates about others, I think are very much part of the same problematic. That is, on the one hand, there's the question of the state. What does the state do in these battles? And which is one of the elements that we have to take into account. On the other hand, there's the risk of polarization in each case, which makes it complicated to say that it's complicated. It makes it very complicated not to sort of leave out, for example, questions of sexism on the one hand, or on the other hand, to leave out questions of racism. Basically, we have to take sides, and we're summoned to do that, and it's very difficult to find ways to say, wait, it's more complicated, and I would like to put it in a different way. I think the logic of binaries plays a role that we've seen in all the debates about homonationalism, sexual nationalism, you name it. Back to liberal and radical. To say that there's something potentially liberal about one position or another, then is not to say that it's really liberal. Deep down, regardless of denials, etc. That is not. But I think the reason why I want to say this is because it raises the question of how useful is the distinction between liberal and radical? How does it work today? And my argument is that it's not so useful today. And the key to this opposition is not just the idea that either you're mainstream or you're marginal. In fact, I think the key is the opposition between rights and norms. If you defend rights, you're supposed to be a liberal. If you're in a critique of norms, you're supposed to be a radical. However, this supposes that rights and norms have nothing to do with one another. Whereas in practice, we know that changes or critique of norms may have legal consequences, and conversely, that the law sometimes transforms society. Up to a point. We could take all kinds of examples, but I'll take just one in reference to today's event, because we were organizing something about radical feminism, and I felt obligated to warn the École des Hautes Études that we might have security problems, and they said, no, we don't think so. And in fact, there's no security today, as you may have noticed. Interestingly, early April, we organized another conference in the very same place, which was called Au-delà du mariage, Beyond Marriage. And they needed security, and in fact, there were people from Manif pour tous who were happily joining the discussion. I'm not saying that marriage per se is more radical than radical feminism, which would make no sense. Even I would not say that. But I think it is interesting to bear in mind that context matters, which is, again, the I think one of the only things that I ever say in the social sciences. There are one or two more, but no. So the relevant issue, I think, is a bit different. And I want to go back to the Samoa volume on SM, which made the question coming to power, the volume coming to power, the 1981 volume. I think what I found particularly interesting in that volume is that it made consent a political issue, not in the usual liberal sense. That is, consent is this preliminary requirement, although that's not too bad to start with. But it's not the position that is taken. That is, consent becomes what is happening, not what is preliminary, what is happening during the sexual exchange in SM relations. So the meaning of consent is not defined prior to the sexual exchange. It is what is at stake in the sexual exchange. That, I think, introduces an element which I think may be interesting when we're trying to reflect on what radical sex could mean, even though I just said that this opposition between liberal and radical is not so important. But the question that matters to me is, where is power? Is power just above sex? And therefore, should we have sex by getting rid of power? So beyond power, or above power, or before power? Or is power inextricably linked to sex? And I think the SM reflections were very much, and practices were very much about this. And it seems to me that thinking about the fact that power is not that which we should just discard, that we're trying to get rid of to have sort of free sex, this, I think, is what is important beyond the opposition of liberal and radical. I have made parallel arguments a while back about advocating something that could be called towards, or notes towards, a feminist theory of seduction, which happened to be popular mainly with one person, and that is myself. But it's the same kind of argument that I'm trying to make. That is basically the idea that we should think precisely in feminist terms, using Foucault in a way that I think is productive. We should think about power not outside of sex, but within sex, and not in order just to denounce it, but to incorporate it in all the meanings of the word. So there's no desire that pre-exists. I think, to take another example from way back, the title, What Color Is Your Handkerchief?, which indicated sexual preferences depending on where and with, where you wore the handkerchief and which color, etc. What this suggested is that in some ways you could define desire prior to the encounter. What I'm interested in is the fact that desire is not just something that could pre-exist, but it's something that is at stake in the sexual encounter. Not just will desire still be there afterwards, but is it there during the encounter? I'll conclude with just a remark. I think all these discussions about liberal and radical have to do with a liberal context. But I will depart from Anne Berger's analysis in that I would distinguish between liberal and neoliberal. It seems, and I will for this borrow from my colleague and friend Michel Fayre. So I think that what we're seeing now is not a kind of hyper-liberal, but rather a different logic. It's not more liberal, it's something else, which we can call neoliberal. The argument that Anne Berger made was, in some ways, I think, a Marxian critique of the Zimmerian position by saying we should bear in mind that the question is there something inalienable, that is, which is outside of the market, the sakha? So is there something outside? So it's the logic which we find today in the cultural exception. It's the logic that we could find in a sexual exception. Is there something outside the market? Now, this, I think, remains within a liberal framework, even though it's a critique of the liberal framework. It's within that logic that is, what are the limits of the market? The neoliberal perspective, I think, is quite different. We live in a neoliberal world that uses human capital, in which case all these distinctions between private and public become a bit complicated. That's not exactly how it works. So it does not mean that I'm suggesting a conversion to neoliberalism. And in fact, I would borrow again from Michel Ferrer, who distinguishes between neoliberalism and the neoliberal condition. That is, we're all part of the neoliberal condition in the same way that Marx was part of the liberal condition, except that he produced an argument that started from the liberal condition to criticize liberalism. And so I think what we have to do about sex, as much as about the rest, is to produce neoliberal critiques of neoliberalism that is taking into account the fact that these distinctions between public and private, between state and markets, do not function in the same way as they did in the liberal world. In a word, what I have tried to say is that sex radicals in the sex wars were not replacing danger by pleasure, but they had them on two separate beds. And my point is that there's only one bed. And so there's no good sex versus bad sex distinction in theory. And the argument about pleasure, and it's purely conceptual. So pleasure and danger, that's a model that suggests maybe that parallels never meet. What I prefer is the other version, the pleasure and danger, hyphenated, one concept, because I think it is more useful for thinking about the issues that we have discussed all day, and I think the reason is that there's nothing outside of power, which is the main lesson that I draw from Foucault, and in that sense, I think Foucault is a philosopher for neoliberal rather than liberal times. Thank you very much.
Je ne sais pas s'il faut que je parle anglais ou français, mais j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Je ne vois pas l'opposition avec ce que j'ai dit, donc j'ai un peu... je pense justement que, comment dire, même s'il ne faut pas oublier Marx, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'était insuffisant justement à penser la condition contemporaine que tu appelles néolibérale. Donc là, je ne suis pas sûre de comprendre le sujet de dispute ou bien le « or » à la place du « and » en ce qui me concerne.
D'abord, enfin, quelqu'un qui me dit « nous sommes d'accord », c'est suffisamment rare dans ma vie pour que je tienne à le saluer. Donc vraiment, je suis très ému. Donc merci. La question, c'est de savoir est-ce que politiquement, on souhaite préserver quelque chose qui soit en dehors du marché. Est-ce que c'est ça notre stratégie politique pour contester le capitalisme? En fait, c'est ça la question. Par exemple, est-ce qu'on se dit il y a une exception culturelle, on veut une exception sexuelle, est-ce qu'éventuellement on veut multiplier les exceptions? Est-ce que c'est ça notre stratégie politique? Et je suis sceptique, même si, tant qu'à faire, je suis pas contre, hein, je veux dire, je trouve que c'est plutôt sympa que la culture, etc. Le sexe, je ne sais pas, mais... Donc je suis plutôt pour. Mais je veux dire qu'il me semble que c'est en tout cas pas la stratégie que je propose. Donc de ce point de vue-là, effectivement, je pense qu'on peut, dans ton argument, lire soit c'est dommage que nous tombions dans un monde zimélien, soit Zimmel est plus lucide sur le monde dans lequel nous sommes. On peut lire les deux. Mais disons qu'en tout cas, pour autant qu'il y ait... disons l'impression que Marx pourrait être un meilleur recours, pour reprendre tes termes, tes références, Marx, Zimmel, etc. Dans ce cas-là, je ne pense pas que c'est comme ça que ça marche, justement parce que la pensée de Marx, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'en servir, évidemment, mais elle est construite par rapport à un monde qui est celui du libéralisme.
Ah, tout à fait d'accord.
Donc il me semble que la question, c'est comment on peut penser le fait qu'on n'est plus dans le même monde. Ce qui n'est pas simple, et je ne pense pas avoir résolu tous les problèmes... En tout cas, dans cet exposé. Notes towards.
Moi, j'avais une question qui était, enfin, une remarque question sur un point qui est devenu en fait un point de détail plutôt du début de votre exposé sur plaisir qui serait du côté du lesbianisme dans la pensée radicale. et danger qui serait du côté de l'hétérosexualité. Et il me semble que ce qui est intéressant dans les écrits de Gail Robin, en particulier par rapport à d'autres, peut-être aussi à d'autres tenantes du camp des pro-sexes, pour aller très vite, l'utilisation aussi de la sexualité, par les antisexes, de la sexualité gay et de certaines formes de sexualité gay comme sexualité repoussoire et typiquement symbole du danger. Que ce soit par la promiscuité et par certaines sous-communautés, etc. Et du coup, ça, j'y ai repensé aussi à la fin de votre exposé par rapport à la référence au bandana. Enfin, il y a quand même Gail Robin avec l'exemple de la sexualité gay et en réhabilitant certaines sous-cultures par son travail, il me semble, déplace un peu certaines choses.
Oui, bah, je pense encore une fois, enfin, mon argument n'était pas de dire, enfin, vous avez raison hein, d'abord, c'est-à-dire que sur cette critique, enfin, cette utilisation en gros, mais qui porte d'abord généralement sur les hommes gays et qui ensuite est exacerbée dans le cas de ces quelques femmes qui, en quelque sorte, semblent valider ce modèle. Je pense que la violence des attaques contre Gail Robin et d'autres était précisément fondée sur l'idée que c'était encore plus grave parce que c'était justement des femmes et que donc ça semblait donner raison à ceux qui disaient qu'on n'était pas condamné à ce que ce soit les hommes qui soient du côté de la violence, etc. Donc c'est, à certains égards, une logique qui n'invalide pas, me semble-t-il, tout à fait le propos. Mais vous avez raison, c'est un élément important. Et par ailleurs, moi, je pense qu'on n'est pas effectivement du tout condamné à ça. Et je ne dis pas que les auteurs disaient ça, etc. Je pense que la postérité des sex wars, donc des guerres du sexe, a été largement dans ce partage hétérosexualité, homosexualité. La postérité, ça ne veut pas dire que c'était inscrit dans les textes, ça ne veut pas dire que c'était inscrit dans les logiques, mais qu'une des manières dont se sont réglées ces guerres, parce qu'une des questions, me semble-t-il, importante, c'est who won ? Qui est-ce qui a gagné à la fin ? Après tout, quand il y a des guerres en général, après on finit par savoir qui a gagné, etc. Et il me semble qu'on ne répond pas exactement à cette question, on la laisse un petit peu entre parenthèses, parce qu'à bien des égards, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que et c'est là que la distinction hétérosexualité-homosexualité me semble avoir joué un rôle historiquement depuis lors. Il me semble.
I have a few comments, and I hope I can be coherent because it's been a long day. First of all, thank you for this wonderful talk. And I tend to agree that the distinction between radical and liberal may not be very useful at times, in part because these terms are so often undefined. So we use them in a lot of different ways without often specifying what those ways are. And I think that's part of why they lose a certain amount of utility. Liberal can mean 50 things, so can radical. Although this language of radical and liberal really does kind of, for me at least, invoke the period in which I came of age, which was the 60s and early 70s, when there was actually in the US a left and it posed itself against the, you know, a type of liberalism as the radical alternative. The political situation there is, of course, really quite different now. So this whole framework has evaporated in the interim. One of the ways that I get concerned about the use of liberal as a term is in the equation of for example, what you said, Lisa Dugan is a radical who will write against censorship, which is a liberal goal. That implies that What does that imply that being pro-censorship is a radical goal? In other words, what's the alternative? I think there are lots of ways to not be liberal and oppose censorship, to oppose unfair laws, to, for example, want the repeal of sodomy laws. I don't think these are just liberal demands, but I'm not a political scientist, so I could be wrong. But I do think it's odd when you argue for something like, let's get rid of sodomy laws, to be charged with liberalism. I just think that's really odd. I keep wondering, what's the alternative? Shall we keep sodomy laws? Is that the radical choice? I'm going to go back through the talk and just pick out a few things. I hope you will indulge me. But since I've come all this way to be here,
I'm
going to be indulgent. Another thing, and I'm going to talk about sodomy laws, since we had them at the time that a lot of this was being written, we had them in most of the U.S. I know this is different from France, but it was still illegal in most states, when I was writing Thinking Sex, and when a lot of these debates were going on, for a lesbian to have oral sex with her partner. This was a felony. And every time you did it was a felony. Same thing for a gay man, and in some states, if you were a straight couple and you had oral sex, it was a potential felony. So when I, but people often didn't take this seriously, and when I made the comment about sexual persecution not be taken seriously enough, these were the sorts of things I had in mind, was that someone could actually be thrown in jail for putting, as Freud put it, the mucous membranes of the lips upon the genitals of a partner. This was a criminal act. So that, I thought, should be taken seriously. You mentioned that MacKinnon has very little to say about same-sex eroticism except to condemn certain aspects of it for being like heterosexuality. But what's interesting to me is that many people said if the MacKinnon proposals are made into law, they will probably fall most heavily upon gay and lesbian publications, which of course they did. In Canada, when a version of this this so-called feminist framework about porn was put into the obscenity regulations, the first magazine that was arrested under that new interpretation was a lesbian sex magazine from Boston called Bad Attitude. And the other thing is that I find really odd about MacKinnon, it seems to me that it's kind of counterintuitive to claim that pleasure is impossible under current conditions. I mean, current conditions may be far less than ideal, but people are having pleasure all the time. So what does it mean to make a statement like that? People, all of us live in the world that we're in. It's a far from ideal world. There are all sorts of problems. There are all sorts of systems of oppression and persecution. And yet we have to live, we only go around once. This is the time we go around. We make the best of it. And to act as if somehow this is all illegitimate makes me think, you know, what kind of vision is this of how you live your life? And it seems to me that it's a very pessimistic vision, that there's no legitimate life that we can have at this time. And I always wonder about that. I don't think it's true that lesbianism is all about pleasure, and there is no pleasure in heterosexuality. There's pleasure. Heterosexuals are having pleasure, I'm sure, at this minute. Somewhere, not far from here. So, you know, all of this just seems to me to be a little bit like some sort of weird fantasy story, some sort of fairy tale about how the world works, that it just seems to me is terribly unrealistic, which is one of the issues I have with this model of the world. I really don't like the terms anti-sex and pro-sex because I actually don't think they describe very much, and I've been guilty of using them, but I would never say that the anti-porn people are anti-sex. I'm sure many of them have perfectly enjoyable sex lives. That's not really what's at issue. It's the policies that they're pursuing that I have a problem with, and I really don't know or care whether they have, what kind of pleasures they have as they go through their lives. And I don't think that sex radicals have better sex lives than anti-porn people. We used to joke that the sound of mating sex radicals was the sound of the photocopy machine turning out leaflets. Those are the sex sounds of sex radicals. And I will leave you with that.
Just one word to, if I may. When you say, what's the alternative, I agree. I mean, I have no disagreement with that. When I said that, say, Lisa Dugan saying, let's fight censorship, this could be related to a liberal position, whereas she's a radical, this is not a critical point of view. I would be in a difficult position if I were to say that because I'm often accused of being a liberal because I defend things like gay marriage or whatever. So no misunderstanding on this. I'm not saying that. I'm just saying that basically this shows the limited value of this opposition in describing political positions today in particular. I think it has become more and more problematic. And so it's not just a theoretical question about liberalism and radicalism forever. It's today. And today I think it has to do with the context, which is not the same as that of liberalism, which is that of neoliberalism. And I think that's part of the issue. Because the distinction between public and private, which feminism has been criticizing forever, I think is even more problematic in the context of neoliberal economics and social practices. So my argument is not to ridicule, to sort of out-closeted liberals. That's not what I'm doing. What I'm suggesting is that precisely when we think, oh, that looks liberal, and it's someone who's not a liberal, then that means maybe the terms to describe reality are not very good.
Et en fait, ceux qui me connaissent vont être étonnés que ça vienne de ma part, mais c'est juste pour une défense, en fait, de la au moins stratégique en fait. De la distinction entre libéraux et radicaux. Il me semble que en fait, si cette distinction est devenue problématique, en fait, il y a un moment historique où elle est devenue problématique. C'est le moment où un certain nombre de radicaux ont commencé à considérer que les combats pour les droits civils n'étaient pas des combats radicaux. Mais en fait, si on regarde de près, c'est une évolution assez récente et que je crois très problématique. Mais si on regarde, par exemple, les textes fondateurs des mouvements de libération gay ou des mouvements de libération féministe, des mouvements de libération des femmes, et les textes radicaux de ce moment-là, il y a une insistance extrêmement forte sur le fait de tenir les deux bouts, en fait, le changement de la loi, pour reprendre les termes que tu employais, et le changement des normes, et de vraiment de faire les deux à la fois. Et du coup, il me semble que si on prend effectivement la distinction libérale-radicale comme disant d'un côté, c'est le changement de la loi, de l'autre côté, c'est le changement des normes, alors la distinction devient complètement inopérante et inintéressante. Et pour prendre l'exemple un peu provocateur que je prends, les républicains aux États-Unis sont aujourd'hui en train d'essayer de retirer le droit de vote aux Noirs, en gros. Est-ce que si on va comme ça, alors la position radicale consistera à dire on n'en a rien à foutre parce que le droit de vote est un problème de libéraux. Bon, si on va avec ce type de définition, il me semble que effectivement c'est pas intéressant. Mais en réalité, il me semble que la tradition radicale a longtemps, et c'est peut-être à ça qu'il faut revenir, redéfinir les termes, a longtemps impliqué de s'intéresser à la fois à la loi et à la fois aux normes. Et la raison pour laquelle, en fait, j'y insiste, c'est qu'il me semble que si le libéralisme a un sens, et si par exemple, il y avait quelque chose de libéral chez Rubin, ça reviendrait à dire qu'au fond, la position de Rubin consiste à dire il faut laisser l'État hors de nos lits, il faut mettre l'État hors de nos chambres à coucher. Je crois que ça, ce serait une position libérale. Mais en fait, c'est pas du tout, je crois pas du tout que ce soit ça la position de Rubin. En tout cas, c'est jamais comme ça que je l'ai compris. En revanche, ce qu'il faut faire, et je crois que ce qu'elle nous invite à faire, c'est d'élaborer une théorie qui nous permette de réfléchir à la façon dont certaines pratiques sexuelles, à la façon politique dont certaines pratiques sexuelles se voient attribuer un sens politique. Et ça, c'est tout à fait autre chose, il me semble, que de dire l'État doit rester hors de nos lits, il faut qu'on puisse faire ce qu'on veut. Et en ce sens, c'est pour ça que je suis en train de reclaim, comme on dit en anglais, je sais plus comment on dit en français, mais de reprendre, ou je sais pas quoi, de revendiquer le terme de radical, parce que de ce point de vue-là, en fait, il me semble que le pas de côté qu'elle fait, qui consiste à dire, encore une fois, non pas il faut mettre l'État hors de nos lits, mais il faut interroger la façon, il faut repenser la façon dont on donne un sens politique à certaines pratiques, ça me semble être une posture, un geste très radical.
Mais juste, indépendamment d'un argument général, juste pour rappeler historiquement, au moment des sex wars, les deux côtés revendiquent le radicalisme.
Mais moi, je dirais jamais que MacKinnon est une libérale. Ça me semblerait complètement ahurissant.
Voilà. Mais donc, du coup, on voit bien la difficulté d'utiliser des termes de description qui permettent de décrire simultanément deux positions radicalement incompatibles où les uns et les autres se contestent le fait même d'être radical. Ça prouve bien la difficulté quand même d'utiliser ce vocabulaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Et c'est plutôt là-dessus que je mettais l'accent. Et je pense que ces inconvénients ne sont pas accidentels. Mais certains de mes meilleurs amis sont radicaux.
So I'm going to ask this in English because it's easier for me, but if it's confusing, I can try in French also. But I was interested today to see that most people spoke of either one article or the other. So it seemed to be either Thinking Sex or Traffic in Women. And I was just wondering if we could try to think together how Thinking Sex is exactly an enlargement of the field, as we talked about earlier, and not something that's entirely separate from Traffic in Women. And I thought that Elsa Dorland's intervention was interesting in that sense, and that it seemed like an attempt, in a way, to bridge the two. But I'm wondering if, essentially I'm having a lot of trouble thinking the connection myself, and so I'm wondering if somebody can help. again, and how to think the two articles together, and if it's not just a division again of sort of a materialist standpoint versus perhaps a social constructivism standpoint later.
I think the articles tend to be treated differently for a number of reasons. One is that they really emerge out of very different historical contexts. They're, 75 to 84, it's almost a decade. So that's one reason. Another reason is that I wrote the first one when I was a graduate student, and, you learn things. And you learn different things. And by the time I wrote the second article, I just had a different intellectual apparatus from which it came. So There are different topics, different times, different political world, and a different set of intellectual tools. So they're really quite different. But I think what is consistent in both of them is two things. One is that I'm very deeply devoted to the idea that some of these phenomena that we think of as kind of natural, transhistorical, ever, you know, never changing, are in fact very recent or very specific or have very particular constituents, and wanted to, and I always want to bring a social, historical, and cultural analysis to these phenomena, which is why I was so kind of startled by the claim that I didn't like sociology and history in the Valverde book. So there is, I think Traffic in Women was, I often say that Thinking Sex was proto-queer, but I think Traffic in Women was sort of proto-social construction. And not because, not social construction in the sense that I was talking about it earlier as a sort of a movement in gay history that happens in the late 1970s, but a lot of the best, what I think of as the best of social science, of history and anthropology and sociology, is social construction. I mean, I once taught a social theory course, and what did I teach? Marx, Weber, and Durkheim. I mean, you can't get a collection of people who are more invested in social construction than Marx, Weber, and Durkheim. It'd be very difficult. There's a wonderful article by Joanne Meyerowitz about anthropology in the 1930s in the United States, and she talks about what aspects of that are already kind of moving in the direction of social construction, or what we would then later call that. But it's a very culturally constructive framework that's in anthropology. And when I got into anthropology, a lot of what attracted me were things such as the critique of race as a biological entity. When I was taking my first courses back in the early 70s in biological anthropology, the first thing I was taught is that there are no races. There are human differences, but they don't sort out biologically into races. So there was already this sort of deconstruction was in the DNA of the field, basically. So I think that's consistent, not just with my life, but the longer trajectory of the major social sciences. I can't speak as much about political science, and certainly not economics, which has its own history, which is theoretically, I think, a little different. So I think there were theoretical and intellectual resources that framed both of those pieces, and were very, and I've always been attracted to those things. And I think that another kind of intellectual resource was the sociology of the 1960s, particularly the social interactionism and the so-called deviance theorists, who were basically deconstructing deviance back in the 1960s. And much of that work then flowed into Jeffrey Weeks' work through the Mary McIntosh article and the Kenneth Plummer work. They were both sociologists, so when Jeff Weeks wrote his book, he was drawing on the sociological tradition as well as British social history people like E.P. Thompson and the Marxist historians in the U.K. All of that, I think, is just part of the intellectual water that I was swimming in. And I think the main difference is that when I did Traffic in Women, well, there are a couple of main differences. One is that I was really focused on questions of feminism and gender. When I did Thinking Sex, I was really focused on trying to come up with a way to think about gay politics that, as David mentioned earlier, didn't have to get rooted through feminist theory. And I, at the time, that's how people thought about lesbian and gay issues on the sort of gay left and the feminist in the feminist movement, was that you understood the persecution of homosexuals because of the oppression of women. And there are ways in which the oppression of women does explain certain persecutions of homosexuals or homosexual acts under certain conditions, but I never thought it was an adequate theory, any more than I think that, you know, Marx's theory of capitalism was adequate to the issues that faced feminism in the late 1960s and early 1970s. So I think what's consistent is that I was always looking for how to bridge certain gaps that seem to be in these theoretical resources that we had at our fingertips at the time, and that always tended to run up against what we couldn't think about very well. They got messier as you got into new topics. And Max Weber once famously said that every theory has its inconvenient facts. And I think that's a wonderful phrase. And every theory does have its inconvenient facts. There are things that just somehow the lens can't get focused on properly. And so you have to look for some other tool, some other microscope, or you use a microscope for some things and a telescope for another. You just have different focal lengths, and you have to find the right tool for the job. So I guess the other, I'm very theoretically promiscuous. I like Levi-Strauss's notion of theories as, you know, his bricolage image of having like a little carpenter's kit with different tools, and sometimes you need a hammer, and sometimes you need a screwdriver, and sometimes you need a drill, and they don't all work to do the same things. And I was talking to David Halpern over lunch. I don't know if any of you have ever seen the Highlander movies, but they're these sort of sci-fi adventure movies. They probably have never been shown here. They're not very good. But the conceit of the movie is that there are these aliens from another planet who are living on Earth, and they're warriors, and they have to fight one another. And every time two of them meet, they have a sword fight. And one of them has to, and one of them gets, the fight doesn't end until one of them loses his head. And they have to do this until there's only one left. So the tagline of the movie, of this conceit for this particular series, there were a number of them. They were, despite being not very good, they were very successful, was there can be only one, because at the end there could only be one guy left of this group of space aliens who were living among us who still had a head. And somehow he got all of the powers that all of the others had given up when they lost their heads. And sometimes we treat theories like that movie treated these aliens, that there couldn't be only one. And I just have never been comfortable with that. I think there need to be multiple theories to deal with the complexities of social life. So I see the pieces as genealogically connected, at least in my own life, but they have very, very different toolkits. And I'll just say one more word about that. When I did Thinking Sex, I was very interested in psychoanalysis. I had just, for the first time, read Levi-Strauss, who wonderfully had just been translated into English the year before someone told me to read him. So that was very lucky. Had it been a year or two earlier, it would have been in French, or if it had been a few years later, it probably wouldn't have struck me in the same way. And these seem to be really good, useful frameworks for what I was thinking about at the time. But when I started to think about sexual perversion, the sexual perversions, as they were called, or the paraphilias, as I assume they are still going to be listed in the new edition of the DSM, the Diagnostic and Statistical Manual, I just got into whole different sets of literature, and I was drawn to social history, to the sociology of deviance, and to reading about the construction of the perversions in the first place around 1900, when they became medical entities instead of sins or whatever they were before, when they multiplied. Jeff Weeks has a wonderful phrase about that period. I think he says something about, in contrast to the biblical prohibitions on adultery, sodomy, and whatever else was, you know, there are very few, actually, sexual crimes that are sexual sins that were traditionally condemned, although sex in general and marriage had to be very carefully monitored at times. But he said, you know, in contrast to that, all of a sudden the sexual diseases multiplied and proliferated as ever new ones were identified in these taxonomic exercises. And I find that literature of that moment, of the creation of the sexual perversions, to be immensely rich and immensely revelatory. Not that I think that the people who did this literature, like Kraft-Ebing and Havelock Ellis and Magnus Hirschfeld and many others, there was a bunch of them, they're all pretty much listed in the first footnote to Freud's 1905 essay on the sexual perversions, where he says he's really basing this article on the usual suspects, and then he lists them, the sexologists of the period. They thought of these things, they thought of all the perversions, and the perversions were really quite elaborate at that point. There were many of them, pretty much everything except procreative sex, done fairly quickly, heterosexual, procreative, and fast. Everything else was a perversion, including too much foreplay. They classified all these things as diseases, and of course I didn't think of them as diseases, but the literature itself really reveals a lot of what's going on in the world at that moment in terms of how different kinds of sexualities are being approached, what these doctors are seeing out on the streets of the cities that they live in, and what their clients are coming in and telling them. They're just full of really amazing data. So I actually know more about them now than I did at the time I did Thinking Sex, but I knew they were really useful. I wish I had. One of the things I regret about the article is that I didn't know enough to articulate a more robust defense of reading that literature. Now I teach it every year, so I know it much better now than I did then. And I just find it amazing. You see in Kraft Ebbing people using the newspapers to do sex ads, to find partners. You see, you know, the emergence of urban subcultures, homosexuals, fetishists, sadomasochists, all kinds of people start to percolate through these documents. And they're a kind of weird ethnography of the sort that happened, earlier when missionaries and colonial explorers went around the world and reported on the strange things these natives were doing. They saw them very unclearly and from their own set of prejudices, but they did talk about what was different out there. And you get that sense reading through Kraft Ebbing and some of the other sexologists of the period that they're sort of providing funny document. They're providing a certain amount of documentation about what's going. There's a wonderful newspaper report in Kraft Ebbing's Psychopathia Sexualis about what he calls the Woman Haters Ball in Berlin. I think it's in the 1880s, and it's this description of a drag ball in Berlin. And then when you get to Magnus Hirschfeld, who's several years later and who is pro-gay and is, you know, some kind of queer himself, he has lots of descriptions of drag balls in Berlin from about 1914, and he has a whole section on the community life of female and male homosexuals in Berlin, and he even describes a bowling club patronized by lesbians of the working class. I mean, it's very rich, and there's a lot of rich material in that. There's another funny story in Hirschfeld about a guy who went to a doctor to be cured of his addiction, his lust for infantrymen, I forget what it is, but some kind of soldier. He went off to Vienna to be treated by one of the doctors there. He went somewhere. He comes back, and his friends say, "Well, did you get cured of your addiction to your lust for soldiers?" And he said, "Absolutely. Now I only go for cavalrymen." I mean, there's just so much material in that. So I was dealing with just a different data set at that point, a different set of tools. Sorry I've gone on so long, but that's an answer to your question. Yeah. Oh, great. You need this.
All right. Shall I speak in French or in English?
In English.
Okay, in English. Okay.
Of course.
Okay. No, I just want to say that I completely agree with you when you say that, we need various tools. In other words, when you advocate sexual diversity, I mean, you also advocate theoretical diversity, and I think that's very important. I'm completely for the type of bricolage, théorique, theoretical, that you advocate. I just wanted to say something more to try and continue addressing the question that Claire raised about the continuity or the continuity and the discontinuity between trafficking women and thinking sex. And, well, I'll just say obvious things because, for people who have read the two texts. One is that already in the traffic of in women, the political and theoretical horizon is one of, going beyond gender and beyond genders. I mean, it's clearly stated already in going beyond what she calls at that point the straitjacket of gender. So, of course, this already announces thinking sex. Another connection, of course, is Marx, even though I think that the way Gail calls on Marx, let's say, in the two essays is quite different. I think that, and in fact you mentioned it right now, that one of the big differences has to do with the status of psychoanalysis. And indeed, as you said, at the time when you wrote Traffic in Women, well, you had just read Lévi-Strauss in English, and then you were reading psychoanalysis in connection, actually, with Lévi-Strauss, and that's because, as you said at the time, they were the ones, especially psychoanalysis, that had focused that had shed the light on questions of sexuality, indeed on the paradigm of sexuality, that had introduced the paradigm of sexuality, and that's why I want to go back to what this young woman said, whose name I don't know, that indeed it's very interesting that in France, you know, Gail Rubin was indeed translated by Une école lacanienne de psychanalyse. Of course, which shows, and you know, I want to say that I agree with what you said, that there is not psychoanalysis, no more than there is the theory or a theory of gender, but there are psychoanalysis in the plural, and it's, you know, it's very important. In other words, what I'm saying is that the big difference, it seems to be to me, in terms of theoretical paradigms between your two essays, is what you do with psychoanalysis, which is to say you use it in a kind of central way in Traffic in Women, and then you drop it because, as you say, and that's interesting too, I think it deserves a lot of thinking, that you know, you think that sexual acts are burdened with too much signification, and of course the big you know, hermeneutist when it comes to sexuality is indeed psychoanalysis. But, you know, I find it all the more interesting. I think that when one talks of sexuality and sexualities, whether one likes it or not, it's difficult not to encounter psychoanalysis or a form of psychoanalysis at some point. And that's why it happens that that tomorrow, for instance, you're going to speak, you know, within the framework of a Lacanian psychoanalyst circle, which also shows that Lacan, for instance, can be read in more than one way. And we know very well there are very normative and angry readings of Lacan. There are queer readings of Lacan, and which means that the text is rich enough to produce apparently antagonist readings.
J'aurais remarqué que dans le titre du colloque, féminisme était au pluriel.
Heureusement. He said that in the title of the conference, feminism is in the plural. There is more than.
This is your last chance if you want to ask a question. Or
otherwise, you remain silent forever.
Well, if there are no other questions, I just want to thank everybody for who brought me here, for doing this, for providing this opportunity. I love being back in France, the atmosphere, I mean, I love the city. I spent a lot of time here when I was younger. This has been a real pleasure. It's been great to meet people and hear the conversations and be engaged in the intellectual life here, and I just am deeply grateful to all of you for having me and contributing these papers and giving my work such a wonderful reception, which I am very moved by. Thank you.
Well, thank you.